Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs, sur les ondes de votre station numérique fidèleauposte.com pour votre émission Voyage-Voyage. Ici votre animateur, André Bouchard. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui. Eh bien, au Festival du cinéma de Sherbrooke avec Malika Bayadji, puis les prêts à camper et les hébergements à la CEPAC pour la prochaine saison, ensuite, expédition humanitaire au Maroc pour le camp avec Alexis Nantel, aussi l'Astrolabe du lac Mégantic et la grande éclipse totale avec Marie-Georges Bélanger, et les guides d'Ulysse d'Europe en Italie du Sud ainsi que dans l'Ouest canadien et l'Amérique du Sud. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers auditrices et auditeurs, sur les ondes de votre station radio numérique fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, Voyage. Et pour nous parler d'un beau festival cinématographique dans la région des Cantons de l'Est, plus précisément à Sherbrooke, soit le Festival du cinéma, j'accueille avec plaisir Malika Bayadji qui va nous parler justement de cette édition 2024, que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Madame Malika.
Bonjour.
Madame Malika, quand on parle du Festival cinéma de Sherbrooke, alors c'est quoi ce festival d'abord?
Mais ce festival-là, c'est un festival qui célèbre le cinéma international, qui célèbre le cinéma de la région, qui célèbre le 7e mars. C'est un festival autour du film, tout genre de films, les films de fiction, les films documentaires, les courts-métrages. Le cinéma va être vraiment au rendez-vous cette année, comme d'habitude. Et on va vraiment faire... cette année, par exemple, nous avons 80 projections. Elle représente 35 pays. On a 15 événements, 31 longs métrages de fiction, 20 longs métrages documentaires et 6 programmes de courts métrages. On a vraiment une programmation très diversifiée.
Et alors, parlez-nous de cette programmation diversifiée, justement. Quels sont les points saillants, en quelque sorte?
Eh bien, nous, on va ouvrir le festival déjà avec une première sherbrookoise, un film québécois. Le film, c'est « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » de Lynn Charlevoix, la réalisatrice. Et ce film-là, il va être présenté avec la présence de réalisateurs et certains membres de l'équipe. Et c'est un film vraiment sur le frère Marie-Victorin. Je ne peux pas dire plus, c'est un très beau film avec quoi qu'on ouvre. Et on va fermer aussi le film avec une comédie française, Une année difficile, qui était vraiment une comédie vraiment poignante. Elle va être vraiment, qui va fermer les activités. On a aussi plusieurs films qui représentent la France, l'Angleterre, l'Islande, la Suède, le Maroc, la Belgique. On a des films aussi du Canada, du Québec, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Égypte, de la Tunisie, du Japon, de l'Italie. On a pour tous les goûts. Notre programmation est vraiment riche. Il faut juste aller sur notre site Internet pour choisir vraiment les films. Si on aime le documentaire, si on aime la fiction, si on aime les courts-métrages. Et on a ici vraiment une belle sélection de l'esprit. On a sélectionné 6 films. Qu'elles vont être finalistes pour la compétition régionale de l'esprit. Et ça, c'est pour vraiment célébrer vraiment la, comment dirais-je, la cinématographique esprienne.
Et quand on choisit les films dans un tel festival, j'imagine que c'est beaucoup de recherche également.
Oui, c'est le travail d'une année quand même, parce qu'on veut représenter plusieurs films. On voulait parler de plusieurs enjeux. On veut vraiment exposer la région estrienne à des œuvres cinématographiques qui n'ont pas la chance de voir ailleurs que dans le cadre de notre festival. C'est sûr que tout ça, ça demande un travail, ça demande des efforts, ça demande beaucoup d'amour pour que vraiment on présente et on projette des films qui vont susciter la réflexion, les émotions, qui vont être le cœur ou le support d'un débat, d'un échange. On a comme une mission en réalité sociale, quand on choisit les films, il faut que les gens vraiment parlent des enjeux, que ça leur intéresse, des enjeux que nous, on pense que sont loin de nous, mais en réalité, sont aussi proches, parce que ça nous concerne aussi.
Est-ce qu'il va y avoir des conférences qui vont être également?
Oui, c'est des réalisateurs qui vont présenter les...
Est-ce qu'il faut s'attendre à certaines conférences également ou présentations spéciales?
Non, on a le ciné-concert qu'on va faire hommage aux musiques des films. C'était vraiment un orchestre qu'il va vraiment jouer de la musique symphonique de certains films avec des images de ces films-là sur l'écran, avec 56 musiciens sur scène. Et on a aussi des présentations des réalisateurs qui vont présenter des films et échanger avec leur...
Que vous donnez un aperçu, à quel moment se déroulera ce festival et à quel endroit?
Le festival festival, ça déroule du 9 au 14 avril, mais dans plusieurs endroits. La programmation principale, c'est à la Maison du cinéma de Cherbourg, aussi au Théâtre Granada, au centre-ville de Cherbourg. On a aussi des projections à l'Université de Sherbrooke. On a des activités au Café 440 et on a aussi au Café Baobab. On est partout vraiment dans la ville de Cherbourg.
Et quelle est l'invitation et pour plus d'informations?
Il faut vraiment aller sur notre site internet fcms.ca pour avoir tous les détails. Et on a hâte vraiment de voir le public qui vient en grand nombre à nos spectacles. Il y a quelques billets pour le ciné-concert. Si les gens s'intéressent vraiment à la musique symphonique accompagnée d'images des films, c'est majestueux. On a aussi quelques billets à vendre. Et les passeports aussi sont en vente soit à la Maison du cinéma, soit en ligne. Ils sont en pré-vente jusqu'au 31 mars.
Alors, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Malika. Et puis, on vous souhaite un excellent festival cinéma de Sherbrooke.
Ah, c'est moi qui vous remercie.
À la prochaine. Au revoir.
À la prochaine. Merci pour l'invitation. Au revoir.
Et maintenant, du côté de la CEPAC, en cette saison qui tire à temps, en compagnie d'Olivier Jacques, qui est en fait la responsable des relations avec les médias et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Olivia.
Bonjour, M. Bouchard.
Madame Jacques, quand on parle de la CEPAC, rapidement, pour ceux qui sont moins familiers, là, c'est quoi les objectifs de la CEPAC ou la vocation de la CEPAC?
Oui, donc la CEPAC, en fait, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. puis nous, notre mission, c'est de mettre en valeur les territoires, les magnifiques territoires qui nous sont confiés par le gouvernement, puis d'en assurer la pérennité au bénéfice de la clientèle, en fait, des générations présentes, mais aussi des générations futures. Donc, on met en valeur et on fait profiter les magnifiques territoires à l'ensemble des Québécois.
Et voilà que c'est le temps des nouveaux hébergements, de réserver en tout cas les nouveaux hébergements et les prêts à camper. Alors, de quoi s'agit-il?
Oui, donc, on a plusieurs nouveautés cette année encore. Donc, on a des prêts à camper qui sont une nouvelle façon de découvrir le camping. C'est des structures qui sont faites en bois, entièrement conçues là, par la CEPAC. Donc, c'est une belle façon là, pour s'initier au camping ou juste d'en profiter en famille. Les petites familles aiment bien ça parce que ça permet aussi d'avoir un toit. Puis on a moins de choses à se procurer là parce que ça vient équipé avec des matelas, avec une table, des chaises, des ustensiles de cuisson. Donc on a juste à porter nos effets personnels là, puis le tour est joué. Sinon, on a également plusieurs hébergements en passant de camping qui s'offrent à vous également cet été.
Et qu'est-ce qu'on peut faire à l'occasion de cette visite ou de ces hébergements?
Oui, donc on a plusieurs nouveautés dans différents parcs, là, comme au Parc national de Plaisance, au Parc national de Yamaska, à Frontenac et aussi à Mont-Tremblant. Mais plusieurs activités sortent dans l'ensemble de nos établissements là, à la CEPAC. L'été, là, on connaît bien là, les activités sur l'eau, des activités nautiques comme le paddleboard, on peut faire du kayak, du canot. L'activité reine à la CEPAC, c'est la randonnée, évidemment. Donc, plusieurs endroits offrent des courtes et longues randonnées pour tous les goûts. Puis sinon, là, on peut aller directement aussi sur le site web là, pour consulter les activités qui sont offertes dans notre parc de choix. Là.
Est-ce que beaucoup de nouveautés, autres que les autres endroits habituels, est-ce que sont toujours disponibles?
Oui, tout à fait. Là, on a plusieurs disponibilités qui restent là, malgré le fait que les réservations pour certains emplacements de camping ont déjà débuté. Il nous reste la disponibilité. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site web là, pour voir ce qui s'offre à vous. D'ailleurs, on a aussi des nouveautés justement qui vont être lancées le 27 mars prochain dès 9h au Mont-Tremblant. On a refait l'ensemble du camping du lac Provo dans le secteur Pimbina-Saint-Donat. Mm-hmm. Donc, il y a une centaine d'emplacements puis qui inclut 15 unités de prêt à camper également qui vont être offertes là, dès le 27 mars. Donc, n'hésitez pas là, à vous rendre sur le site web pour consulter les options qui sont disponibles à vous.
Vous aviez une invitation pour nous convaincre justement à héberger à la CEPAC dans ses prêts à camper ou ses hébergements. Qu'est-ce que vous diriez, Olivia?
Oui, donc, comme je le disais, là, le Québec là, regorge de magnifiques endroits. Pour venir les découvrir à la CEPAC, on offre on a une offre exceptionnelle là, selon les budgets qui s'offrent à vous, que ce soit en camping, en prêt à camper, en camp rustique ou même en chalet. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Et sans compter que c'est le temps de la pêche également.
Oui, venez nous voir. Là, la pêche est ouverte aussi pour la pêche quotidienne. N'hésitez pas à regarder sur notre site web.
Et pour plus d'informations?
Au www.cepac.com.
Olivia Jacques, merci beaucoup de cette entrevue. On vous souhaite une excellente saison qui s'en vient. À la prochaine.
Merci, M. Bouchard.
C'est un grand plaisir maintenant d'interroger un aventurier, un alpiniste, un randonneur, un voileux, conférencier, chroniqueur, animateur, producteur et aussi un grand-papa, un papa et un époux aussi. En l'occurrence, Alexis Nantel, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue dans le cadre d'un beau projet pour le camp, mais qu'il s'agit d'une belle, aventure. Alors, bonjour Alexis.
Salut André, écoute, je t'écoutais énumérer un peu tous mes rôles. Il y a des matins comme ça où je me dis, ouais, peut-être que j'en ai un peu trop.
Non, mais c'est bien d'être versatile comme ça. Je pense que ça prouve jusqu'à quel point on a du cerveau également, un peu de physique, hein?
Tout à fait, tout à fait.
Alexis, je sais que tu fais beaucoup d'excursions, d'expéditions, etc., mais je sais que tu prépares un projet un peu spécial également. Alors, parle-nous de ce projet, le camp, là, avec Chlorophylle. C'est quoi exactement ce projet? D'où est né ce projet d'abord?
Oui, bien, l'expédition Le Camp au Maroc, hein, au profit de Le Camp, en tout cas, propulsée par Chlorophylle, c'est une expédition que j'organise. Donc, pour Le Camp, pour une grande collecte, l'idée, c'est de ramasser plus de 150 000 $. On a plus de 45 participants là, qui vont partir avec moi à compter du 7 avril prochain pour 2 semaines. L'idée, c'est d'aller grimper le plus haut sommet de l'Afrique du Nord au Maroc dans l'Atlas, dans la chaîne de l'Atlas, qui s'appelle le mont Toubkal, qui culmine à 4167 mètres, et sur lequel on peut vivre des températures parfois, parce que je l'ai fait moi seul en 2019. Mmh. Là, j'avais eu à son sommet avec le vent, un moins 25.
Oh.
Et de l'autre côté, ben ensuite, on va se diriger vers le désert du Sahara pour grimper là la plus haute dune du Sahara marocain, l'Erg Tchébi, à 160 mètres de haut. Ce qui paraît peu, mais dans le sable qui dégringole à chaque pas, c'est quand même difficile, surtout que là, il va y avoir également un contraste de chaleur. On part de température froide. Et dans le désert, là, de jour, il peut faire jusqu'à 40 degrés.
Oh là là! Mais qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied un tel projet?
Bien, l'idée, c'est que, bon, j'ai fait quand même plusieurs accompagnements dans le passé pour des OBNL. Et la cause des enfants m'a toujours touché particulièrement. C'est notre futur à tous. On parle souvent d'éducation. Bon, ça fait partie de l'enfance. Je pense qu'on doit faire des choses pour eux. Et j'avais le goût donc d'offrir ce service-là à Le Camp pour arriver à lever le maximum de fonds possible dans une aventure en randonnée, en montagne, ce qui s'est fait beaucoup dans le passé, mais là, depuis même avant la pandémie, là, on avait vécu un creux en termes d'enthousiasme, je dirais, par rapport à ce type d'expédition-là de collecte de fonds. Mais comme la pandémie a amené beaucoup de gens sur les sentiers, beaucoup de nouveaux randonneurs, ben là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui en veulent un peu plus puis qui veulent parfois se joindre à des causes, donc joindre, disons, l'utile à l'agréable. Et c'est ce que j'ai proposé. Puis on a vu le succès, là. On va être exactement 49 personnes à prendre le départ le 7 avril.
Et quel type de personnes vont participer, justement, j'allais demander, à ce genre de projet?
Et c'est très varié, là. On a des gens qui ont, d'abord, quand ils se sont inscrits, elles n'avaient jamais fait de randonnée. Parce que, bon, ils se sont inscrits il y a plus d'un an maintenant. Il y avait un programme de formation.
Ouais, justement, ça demandait de la promotion, en effet, oui.
Oui, c'est ça. Il y a quand même toute une préparation qui est là. Il faut quand même laisser le temps aussi aux participants d'amasser les fonds. Mais oui, je les accompagne, je les encadre. Il y a eu des sorties préparatoires, un plan d'entraînement à suivre. Mais donc, il y a des gens qui n'avaient aucune expérience, comme il y avait des gens qui avaient énormément d'expérience déjà en randonnée, mais qui voulaient tout simplement se joindre à une belle aventure humaine, et puis en profiter pour visiter puis faire une randonnée qui n'avait pas été réalisée auparavant.
Est-ce que la plupart des personnes réussissent ce projet?
La plupart des personnes, je dirais que jusqu'à maintenant, la collecte va très, très, très bien. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais si on est tout près, on l'a peut-être même dépassé. J'ai les gens, en termes de montagne, de randonnée, la majorité vont le réussir parce que c'est une randonnée qui est vraiment une introduction à la haute altitude. On parle de 4000 mètres.
Donc, c'est relativement faisable, si l'on peut le dire.
Oui, parce qu'on ne reste pas là pendant plusieurs jours. On va partir, nous, on fait déjà quelques jours en montagne. Là, c'est 6 jours au total, la portion montagne. On couche en refuge. Et là, après ça, on fait le sommet et on redescend. Donc, on ne reste pas à 4000. Le 4000 va être atteint dans la journée, mais on va redescendre plus bas par la suite. Donc, ça se fait quand même relativement facilement.
Est-ce que ça a été difficile de trouver les participants?
Non, ça a été très, très rapide. Dès l'annonce sur les médias sociaux, ça a circulé partout. Puis, en dedans de 3 semaines, là, on avait déjà atteint notre groupe de départ, qui était 30 hein, au départ. Mm-hmm. C'était limité. On a fait des pieds et des mains avec l'agence locale au Maroc et l'agence ici à Montréal, Terra Ultima, pour arriver à augmenter le groupe et de le faire tous ensemble. Parce que ce qu'on voulait pas, c'est de faire 2 groupes séparés dans un monde idéal. Oui, on a réussi à partir tout le monde ensemble.
Oh, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que vous avez assez de participants maintenant, que le recrutement est maintenant terminé.
Oui, sauf que ce que je peux annoncer, c'est qu'il va y avoir un autre voyage en 2025. Ah. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent m'écrire à partir de mon site web alexisrandonneur.com pour déjà se mettre sur la liste. Et il y aura quand même, pendant l'année, là, une collecte donc pour le camp. Mais il y en aura pour d'autres aussi au BNL là, que je vais offrir au courant de l'année. Là, on aura possiblement 4 ou 5 expéditions possibles avec des destinations différentes.
Alors, le message est lancé, Alexis, puis on vous souhaite évidemment une excellente expédition, le camp au Maroc, et en compagnie de ces participants-là, et également, bien, avec une belle réussite, agréable en même temps.
Merci, merci. Puis j'invite les gens à aller sur l'expédition Maroc Le Camp, là, le site web, pour faire un don là, s'ils veulent soutenir les enfants.
Le message est lancé. Merci beaucoup et bon succès, Alexis, dans tous tes projets également.
Merci, au plaisir.
Au revoir, à la prochaine. Alors, une belle visite maintenant à l'Astrolabe de Lac-Mégantic, en compagnie de Marie-Georges Bélanger, qui est la directrice à la clientèle, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Marie-Georges Bélanger.
Bonjour.
Madame Bélanger, quand on parle d'abord de cet observatoire du Lac-Mégantic, là, l'Astrolabe, c'est quoi d'abord cette organisation?
Oui, on est le parc national du Mont-Mégantic, un grand parc qui est tourné vers les étoiles parce qu'on a l'Astrolabe qui est un musée qui est dédié à partager la science et le ciel étoilé à tous nos visiteurs et à tout le public.
Alors, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de spécial et ça existe depuis plusieurs années, votre organisation, votre Astrolabe.
Oui, on est dans les 30 ans, là. Ça fait longtemps qu'on est là, effectivement, puis on est vraiment content de partager toute notre passion avec tout le monde.
Et d'autant plus qu'un événement vraiment spécial qui va se dérouler prochainement, la fameuse éclipse. Alors, comment ça va se dérouler du côté de l'Astrolabe?
Effectivement, le 8 avril prochain, il y a un événement astronomique unique dans une vie qu'il faut absolument observer dehors. C'est un lundi, 8 avril, en après-midi, autour de 3h30. Ça dépend un peu dans quelle ville on se trouve. Et nous, évidemment, on va accueillir le public, mais c'est sur réservation. Et là, pour l'instant, c'est complet. Mais comme notre activité sur le site est complète, Mais si les gens ne peuvent plus venir à la montagne va aller vers les gens.
Ah oui, alors expliquez-nous ça.
Ben oui, on va faire une émission en ligne, en direct, sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook ou notre page YouTube.
Mm-hmm.
C'est gratuit. Pendant 2 heures, cet après-midi-là, nous, on va être en ligne, en émission, pour expliquer ce qui se passe. C'est quoi une éclipse? Comment ça, c'est rare? C'est quoi l'alignement de la Lune, du Soleil, de la Terre? Puis on va avoir des invités spéciaux qui vont venir raconter des choses sur qui en ont déjà vécu. Puis tout le côté émouvant de l'expérience, parce que vivre une éclipse totale, c'est quelque chose dont on se souvient toute notre vie, qu'on veut vraiment le partager avec le plus grand nombre.
Justement, en parlant d'éclipse, pour nos auditeurs ou internautes, vous nous dites, une éclipse totale, c'est quoi exactement?
Effectivement, des éclipses, il y en a, ça arrive. Et des éclipses totales de soleil, ça arrive moins souvent. Les éclipses partielles, c'est qu'on va voir une partie du soleil qui va être cachée par la Lune. Mais quand elle est totale, la Lune vient recouvrir complètement le soleil. À ce moment-là, ce qu'on voit dans le ciel, c'est un rond noir. Et la noirceur s'installe. Et là, imaginez-vous, à 3h30 l'après-midi, tout d'un coup, il se met à faire noir dehors. C'est phénoménal. Et là, on peut voir apparaître des étoiles dans le ciel, les plus brillantes. Il y a quelques planètes qui vont apparaître aussi. Les animaux vont commencer à s'adapter aussi parce qu'ils vont penser que la nuit arrive. Leur comportement va changer. C'est vraiment quelque chose qui est émouvant puis qui nous saisit parce que c'est plus grand que nous.
Mm-hmm.
Ça se passe dans l'univers et c'est vraiment phénoménal.
Et concernant ce phénomène, est-ce que c'est dangereux pour la santé ou les yeux, entre autres?
C'est une excellente question. Tous les jours, le soleil est dans le ciel. Tous les jours, on fait notre vie comme si de rien n'était. Ce qui se passe à l'éclipse, c'est qu'on a le goût de regarder. Normalement, le soleil, on n'est pas capable de le regarder avec nos yeux, ça fait mal. Puis ça peut, on peut se faire des blessures comme devenir aveugle si on regarde longtemps le soleil. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça dans la vie, regarder le soleil, on le sait. Mais pendant l'éclipse, si on veut pouvoir observer la Lune qui commence à cacher le soleil, là, il faut avoir des lunettes spéciales. Et ça se trouve, ça, dans différents commerces. On peut acheter des lunettes qui sont faites exprès pour ça avec des filtres spéciaux certifiés. Et là, on peut observer la Lune qui approche sur le soleil avec ces lunettes-là. Et au moment où ça va être total, ce moment-là précis de quelques secondes, où là, la Lune est complètement devant le soleil, et là, la noirceur s'installe, là, on peut enlever nos lunettes et observer, parce qu'on va voir un disque noir. Le soleil ne sera plus là, donc il n'y a plus de danger. Et dès que c'est terminé, après quelques secondes, il y a un premier tout petit rayon qui apparaît. C'est évident, nos yeux vont tout de suite se détourner parce que nos yeux nous protègent. Et tout de suite, on va remettre les lunettes pour commencer à voir la Lune qui quitte le soleil et la fin de l'éclipse.
Ah, c'est là que le phénomène est vraiment hors de l'ordinaire.
Absolument. Une éclipse totale de soleil, c'est la dernière qu'on va voir de nos vies parce que la prochaine est dans plus de 100 ans. Ça n'a pas de sens. On ne sera pas là.
Mais l'endroit stratégique, est-ce qu'on peut dire qu'à l'Astrolabe, c'est un des endroits stratégiques ou ne pas dire l'endroit par excellence?
C'est sûr qu'être dans le milieu de l'astronomie pour vivre l'éclipse, c'est phénoménal. Mais en même temps, ce qui est important, là, c'est de pouvoir l'observer. Peu importe où est-ce qu'on est, elle est là dans le ciel. Ce qui est important, c'est d'être dans la bande de totalité. Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, la grande région de Québec, ils sont pas dans la bande de totalité. Ils sont dans la bande de partialité. C'est une éclipse partielle, donc il n'y aura pas de noirceur, ils vivront pas le grand phénomène. On invite vraiment les gens à descendre au sud du Québec. Par exemple, dès Saint-Georges, on est déjà dans la bande de totalité en Beauce, et d'autres villes, la moitié de l'île de Montréal aussi dans la totalité. Donc, il faut vraiment juste se rendre dans la bande. Et plus on est proche du centre de cette bande-là, plus ça va durer longtemps. C'est important de s'avancer puis de descendre au sud du Québec pour essayer d'avoir le plus longtemps possible pour avoir le privilège de vivre ça pendant plusieurs secondes.
Donc, c'est dans les cantons de l'Est, un des beaux endroits, dans un bel endroit pour admirer ce phénomène.
Effectivement, les cantons de l'Est, la totalité des cantons de l'Est se trouve dans la bande de totalité. Donc, n'importe où à l'intérieur des cantons de l'Est, c'est un excellent endroit pour venir l'observer.
Allez, quel est le conseil pour plus d'informations, Marie-Georges?
Absolument. Vous pouvez aller sur astrolabe.qc.ca pour aller visiter un peu puis vous informer sur notre site. Et on a un autre site qu'on a fait avec un regroupement d'autres passionnés de sciences comme nous, qui est là vraiment pour éduquer, informer. Il y a des cartes, il y a toute l'explication. Ça s'appelle eclipsequebec.ca. Ça vaut vraiment la peine d'aller se promener là-dessus puis d'apprendre à quel point c'est unique et impressionnant.
Alors, très intéressant pour tous ces renseignements. Puis, on vous souhaite, j'allais dire, de nombreux visiteurs, mais vous avez déjà le nombre de visiteurs à votre astrolabe. Mais pour la région, c'est bon de prendre nos précautions et en même temps, d'admirer ce beau phénomène.
Effectivement, je vous souhaite une belle éclipse à tous.
Et je vous souhaite la même chose, Mme Marie-Georges Bélanger, directrice de la clientèle à l'astrolabe de Lac-Mégantic. À la prochaine. Et merci de votre collaboration. Et là-dessus, une pièce musicale.
Au clair de lune, comme il fait bon. À Québec avec ma brune, nous aimons. Montez sur la citadelle, nous écoutons. Les petites hirondelles, dans les Québec au clair de lune, comme il fait bon. À Québec avec ma brune, nous aimons.
Ces guides de liste sont très connus dans le domaine du voyage. Et pour nous parler justement des prochaines nouveautés, j'accueille avec plaisir Julie Broder, qui est la responsable et directrice des relations avec les médias et qui va nous parler justement de ces nouveautés et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Julie.
Bonjour André.
Julie, est-ce que des nouveautés prochainement chez Ulysse?
Oui, on a reçu plusieurs nouveautés qui ont été publiées pour notre saison du printemps et d'été, donc une quinzaine de nouveaux titres qu'on est très heureux de vous présenter. Donc, on a toute une série de petits guides de poche sur des villes, mais on a aussi des beaux livres sur l'Europe, dont Italie, 50 itinéraires de rêve, randonnée à vélo, 50 itinéraires de rêve aussi, mais en Europe, et 150 randonnées d'un jour en Europe.
Ah, c'est intéressant. Alors, vous voulez nous en faire connaître un petit peu plus pour quelques-uns. Alors, du côté, par exemple, de l'Europe, qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là?
Oui, bien, dans nos nouveautés, on essaie un peu d'inspirer les gens à faire des sorties en plein air en Europe. On connaît l'Europe comme une destination très culturelle, historique, des sites incontournables, des musées. Puis, ben là, on voulait faire un peu découvrir aux gens des petites escapades qu'ils peuvent faire facilement pendant leur voyage en Europe, que ce soit en France, en Italie, mais on rayonne un peu partout aussi en Europe jusqu'en Norvège. Donc, on a un premier qui est pour des randonnées pédestres. Donc, c'est 150 idées de randonnée pédestre d'un jour. Donc, ça veut dire que pour chacune des randonnées, on peut faire le circuit puis revenir à son hébergement le soir. Fait que c'est des randonnées qui s'adressent autant aux familles qu'à des gens un peu plus sportifs. On les décrit avec le niveau de difficulté, le temps que ça prend. Donc, on peut trouver un sentier qui nous plaît dans chacune des régions où on est pour notre voyage en Europe. Fait qu'on fait des... On peut ponctuer son voyage de belles randonnées dans des paysages magnifiques parce qu'en Europe, il y a vraiment une diversité de paysages incroyables. Puis, ben, c'est agréable d'aller les découvrir, puis les connaître. Puis, il y a aussi des choses étonnantes qu'on n'a pas vraiment au Québec puis qui est fun en Europe. C'est des petites buvettes de montagne. Mm-hmm. On se ramasse, on fait une randonnée, puis là, hop, on peut arrêter quelque part pour manger, se détendre, puis après ça, recontinuer.
Très intéressant.
Du sentier, on peut avoir accès à des établissements comme ça.
Et du côté de l'Italie, vous avez des découvertes à nous faire également?
On a sorti la nouvelle mouture du guide Italie 50 itinéraires de rêve. Donc là encore, on s'adresse aux gens qui sont intéressés par l'Europe, mais par l'Italie en particulier. On a des itinéraires pour ceux qui veulent découvrir une première fois l'Italie, puis d'autres pour ceux qui connaissent le pays un peu, mais qui veulent un peu aller en dehors des sentiers battus. Bon, c'est l'Italie, il n'y a pas beaucoup de sentiers. Les sentiers sont très connus, mais on a des petites perles qui sont moins visitées, moins connues aussi, qu'on propose aux lecteurs. Donc, c'est un très beau livre aussi avec des superbes illustrations. Donc, ça, c'est l'Italie 50 itinéraires de rêve. Et puis, le dernier de nos beaux livres sur l'Europe, c'est « Randonnée à vélo ». 50 itinéraires de rêve. Mm-hmm. Donc là, on troque la bottine de marche pour le vélo. Puis c'est aussi, ça s'adresse aussi à un lectorat assez général. Donc, c'est les gens qui veulent avoir une première expérience d'excursion à vélo en Europe, ils vont y trouver des petites excursions, des escapades plus courtes en milieu urbain ou pas loin. Puis aussi, ceux qui ont l'habitude de faire du tourisme à vélo puis qui veulent partir plus longtemps, on a des tours... des grands tours qui incluent plusieurs pays pour plusieurs jours.
Est-ce qu'on peut dire, justement, en parlant de vélo puis de pédestre, côté pédestre, que ces secteurs-là ont pris de plus en plus d'expansion dans les pays européens, entre autres?
Oui, définitivement, oui. Les gens ont envie de vivre des expériences dans la nature différentes, un peu loin des foules aussi, puis faire du tourisme actif, bouger. Ça aussi, ça fait partie des choses que les gens recherchent. Puis aussi du tourisme plus lent. Donc, au lieu de se déplacer rapidement, on profite du paysage, on profite des journées, on prend notre temps.
Mm-hmm.
Ça fait partie du plaisir d'être en voyage aussi, hein, que de profiter de chaque instant et de prendre un peu le temps plus doucement que dans notre quotidien.
On pourrait même rajouter le côté gourmand aussi, qui est de plus en plus répandu.
Tout à fait. Puis il y a plusieurs de nos escapades dans tous nos livres, en fait, qui mènent à des endroits où on peut se restaurer, où on peut acheter des produits locaux, même des vignobles. Donc, c'est tout indiqué. Là, l'Europe, c'est vraiment aussi sa marque de commerce d'avoir des endroits où bien profiter de la bonne chair.
Et pour compléter, Julie, qu'est-ce que vous nous diriez comme conseil ou invitation?
Bien, ça, je vous invite à, quand vous allez en Europe, à songer à faire au moins une sortie ou deux, dépendamment de la longueur de votre séjour. Sinon, un séjour au complet axé sur la randonnée, c'est merveilleux. Mais de vraiment penser à sortir de la ville pour aller profiter de la nature européenne. C'est magnifique, ça vaut la peine. C'est très accessible aussi, nos randonnées, puis à vélo ou à pied. Souvent, sont accessibles en transport en commun, en train. Donc, faut vraiment pas hésiter pour profiter des beautés de la nature.
Et si on va se procurer ces beaux ouvrages, qu'est-ce qu'on doit faire, Julie?
Bien, vous pouvez aller sur notre librairie, ou sur notre site Internet au www.guideulysse.com.
Alors, merci beaucoup, Julie Brodeur. Et c'est un plaisir de rencontrer à nouveau Julie Brodeur, qui est la directrice des relations de presse chez Guide Ulysse, qui va nous parler d'autres belles destinations, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nouveautés par les temps qui courent. Alors, rebonjour Julie.
Bonjour André.
Julie, qu'est-ce que tu peux nous faire découvrir à ce moment-ci?
Bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos guides qu'on a sortis tout récemment pour la saison estivale, qui se concentre un peu sur l'Amérique du Nord. Donc, parmi ceux-là, on a un beau livre qui s'appelle « Les 101 plus beaux sites de plein air de l'Ouest canadien », qui donne vraiment une idée des endroits qu'on peut visiter plus connus ou moins connus de l'Ouest canadien.
Mais entre autres, qu'est-ce que je prenais des exemples de cela?
Oui, bien, c'est ça, pour profiter des sites peut-être un peu moins visités. Donc, on a des sites en Saskatchewan, des lacs qui sont vraiment particuliers, moins visités, des sentiers aussi, donc pour faire de l'escalade, pour faire du kayak. On a vraiment une panoplie d'activités qu'on peut faire dans ces sites-là. Donc, on a à la fois les incontournables, puis des sites moins communs. Mm-hmm. On a le livre est divisé en différentes sections. Donc, les sites pour profiter de l'eau, des lacs ou de la mer, de voir les animaux.
On peut te dire en quelque sorte, en dehors des sentiers battus.
Oui, c'est ça, oui et oui. C'est sûr qu'on a les incontournables aussi, mais on a plusieurs sites qui sont en dehors des sentiers battus. Mm-hmm. Il y en a qui s'adressent aussi à des aventuriers qui sont un peu plus difficiles d'accès ou qui demandent des excursions plus longues.
Alors, c'est des belles découvertes à faire de toute façon.
Oui, tout à fait. Puis, il y a des très belles photos aussi. Puis, pour chacun des sites, on explique c'est quand la meilleure saison pour s'y rendre, mm-hmm. les activités qu'il y a à faire sur place, puis des petits conseils particuliers pour chacun des sites.
Et du côté de l'Ouest canadien, je pense aussi que tu as d'autres découvertes à nous faire connaître.
Oui, parce qu'en parallèle avec la sortie de ce beau, parce que ça, c'est un beau livre, les 101 plus beaux sites de plein air. Alors, en parallèle à ça, on a sorti plusieurs guides de poche, les petits guides explorés et escales. Puis, on en a un qui s'est exploré les Rocheuses canadiennes. Donc, celui-là, il est spécifiquement sur les Rocheuses, donc Colombie-Britannique et Alberta. Puis, on a tous les parcs, tous les plus importants sites touristiques qui sont décrits. On a là-dedans des restaurants, des hôtels, des bars, des magasins. C'est un petit guide très pratique qui explique aussi comment se déplacer puis qui fait des propositions d'itinéraires.
Est-ce qu'on peut dire qu'un retour vers l'Ouest canadien, parce que c'est qu'un certain temps, c'était plus tranquille?
Oui, bien, l'Ouest canadien, c'est une des destinations préférées des Québécois. Mm-hmm. On apprécie beaucoup la nature qui est grandiose là-bas. On a vraiment, je pense, une affinité aussi avec les gens. On aime voir les animaux. C'est vraiment, on aime faire le plein air aussi là-bas. C'est un cadre extraordinaire. Donc, les Rocheuses, c'est une destination magnifique pour la famille. Donc, les familles québécoises aiment bien aller se balader là-bas.
Es-tu une grande voyageuse, Julie?
Ah, ben oui, bien sûr.
J'espère qu'un jour, tu nous conteras un de tes voyages.
Ah, ben, ça me ferait plaisir.
S'il y a une destination que tu as préférée en particulier?
Une destination que j'ai préférée en particulier?
Oui.
Ah, d'emblée, je dirais le Vietnam, parce que c'est... on en parlait récemment avec ma famille. Ça a été marquant pour nous. On est partis...
On aurait l'occasion d'y revenir à ce sujet-là. Ça serait intéressant.
Oui.
Un
D'accord.
beau récit de voyage là, sur le Vietnam. Ben, je sais que c'est une destination très populaire.
Oui, oui. Mm-hmm. Puis c'est agréable aussi de voyager là-bas. C'est une belle destination pour découvrir l'Asie.
Mm-hmm. Alors, somme toute, quel est le message que tu laisses, Julie?
Je veux vous dire de profiter de l'été pour aller sur les sentiers, que ce soit dans l'Ouest canadien ou ici. Puis, si vous voulez aussi explorer des villes, c'est le bon temps aussi d'aller se promener dans les villes voisines du Québec. Donc, on a sorti pour ça nos guides escales. On a Chicago, Boston, Toronto et New York qui sont tout nouveau remis à jour. Et qui sont plein de bonnes suggestions pour aller se promener en ville, pour faire du tourisme urbain.
Alors, on prend ça en note, Julie, et pour plus d'informations et se procurer ces beaux volumes?
Vous pouvez aller sur notre site Internet au www.guideulysse.com.
Alors, merci beaucoup, Julie Brodeur, pour tous ces renseignements concernant les beaux Guide Ulysse, et on vous dit à la prochaine. Et voilà qui termine, chers auditrices et auditeurs, cette émission Voyage-Voyage sur votre station numérique fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou suggestions, il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant andrebouchard84@commercialgmail.com. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine remplie de belles découvertes ici et là et qui vous dit à la prochaine. Mm-hmm.